de Courtoisie. Bonsoir, très heureux de vous recevoir dans ce libre journal des amitiés françaises. Bienvenue à vous tous pour cette émission qui est une émission préenregistrée pour des raisons d'emploi du temps de notre invité. Nous allons parler de la Bretagne. Et l'histoire de France, comme vous le savez, est une construction très progressive sur un vieux fond celte et gaulois, qui fut toujours d'ailleurs majoritaire. Ce n'est qu'au XVIe siècle que la Bretagne, comme bien d'autres provinces, intégra ce royaume de France en abandonnant ses droits. Et ça, selon la volonté de la deuxième et dernière fille d'Anne de Bretagne, René, qui les abandonna en effet au roi François Ier. Auparavant, la Bretagne fut un royaume, puis un duché, avec les mêmes attributs qu'un pays, qu'une nation indépendante. Une armée, une monnaie, un gouvernement, un parlement, mais avec un lien de vassalité réel, mais dont la forme et l'importance furent discutées. La Bretagne, c'est une histoire riche qui remonte au plus vieux de la préhistoire, mais une histoire complexe, car la Bretagne dans notre histoire est d'abord un pays gallo, donc gaulois, gallo de gaulois, qui fut, alors peut-on utiliser ce mot, eh bien notre invité ne le précisera, mais qui fut colonisé, envahi pacifiquement ou violemment, ça n'est pas très clair, nous le verrons au 8e siècle par les grands bretons, eux, bretonnants, du pays de Galles, fuyant l'invasion de leurs Saxons, hein, l'invasion par les Saxons, par les tribus saxonnes notamment, de l'île de Grande-Bretagne. Il y a plusieurs manières d'aborder l'histoire et la culture d'un pays. Et Joël Cornette, notre spécialiste de l'histoire de la Bretagne, eh bien nous en propose ce soir une particulièrement intéressante et originale, celle des objets. En effet, il publie un livre passionnant, une histoire de la Bretagne à travers 50 objets de son choix. Des objets très variés, du plus fragile au plus solide, tous révèlent en tout cas la singularité irréductible de l'âme bretonne. Ce livre, c'est une histoire de la Bretagne racontée par 50 objets qu'il publie aux éditions Erol. Joël Cornette, bonsoir.
Eh bien bonsoir et merci de me recevoir.
Alors je vous propose que nous commencions juste, je vous ferai la présentation après l'introduction musicale. Nous commençons par écouter une musique que vous avez choisie.
Oui,
qui va introduire cette émission.
Une musique un peu ancienne qui remonterait au Bars Albreiz, c'est-à-dire cette collection de poèmes faite par La Ville Marquée en 1839, en tout cas c'est la date de la parution de la première édition, et c'est un groupe de musique celtique qui justement remet au goût du jour cette vieille chanson.
Eh bien nous l'écoutons.
Dim dim dum 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 d
bien, chers auditeurs, je précise à nouveau que nous avons le plaisir de recevoir Joël Cornette pour 50 objets racontant une histoire de la Bretagne qu'il publie aux éditions Erol. Vous connaissez bien Joël Cornette, hein, qui vient souvent à ce micro pour notre plus grand plaisir, soit évoquer la Bretagne, bien sûr, dont il est un grand spécialiste, soit évoquer le grand siècle, la monarchie absolue, plus particulièrement Versailles. Ils sont ces deux grands sujets, ces deux sujets de prédilection ce soir. Bien sûr, nous avons le plaisir de le recevoir pour l'histoire de la Bretagne. Alors, Joël Cornette, je vous présente à nouveau aux auditeurs, mais je pense qu'ils connaissent ils commencent à bien vous connaître. Hein. Vous êtes professeur émérite des universités, mais un professeur émérite très très actif, parce que vous avez de nombreuses occupations professionnelles par ailleurs, outre bien entendu la rédaction de nombreux ouvrages. Vous êtes directeur de collection chez Belin, vous avez publié d'ailleurs une histoire de France en 13 volumes. Vous êtes aussi le directeur de la collection des mondes anciens, une collection magnifique d'ailleurs, hein. Et vous avez reçu récemment des responsables d'émissions de Radio Courtoisie, puisqu'il s'agit de Thierry Lenz, qui vient de publier un ouvrage donc dans cette collection, hein, des mondes anciens, ouvrage magnifique. Je précise aussi que vous avez reçu au Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Pour l'œuvre bretonne, vous aviez reçu récemment l'attribution du collier de l'Hermine, ce qui n'est pas rien. Et pour le grand siècle, eh bien, précisons que vous venez tout juste de recevoir un prix très prestigieux, qui est le prix Hugues Capet pour votre livre Anne d'Autriche que vous publiez chez Gallimard. Alors c'est un prix, ce prix Hugues Capet, c'est décerné, vous m'expliquez ?
Oui, un peu prestigieux, puisque c'est remis par, je dirais, les héritiers des Capétiens, les héritiers notamment de la famille d'Orléans, et qui ont, disons, remis en valeur ce prix qui récompense un livre qui éclaire, si je peux dire, l'histoire de la monarchie. Voilà, alors, il se trouve que mon livre Anne d'Autriche, mère de Louis XIV, évidemment, les a sans doute intéressés, et donc j'ai eu vraiment l'honneur et le privilège de... Je vais recevoir d'ailleurs dans quelques semaines ce prix, Hugues Capet.
Les descendants d'Anne d'Autriche.
Pardon.
Les descendants d'Anne d'Autriche,
oui,
vont vous remettre
d'une certaine
le prix
façon, voilà,
Hugues Capet pour le livre consacré.
Et alors, c'est vrai que je me sens un peu schizophrène entre, d'un côté, l'histoire de France et l'histoire de la Bretagne. J'ai l'impression d'avoir deux pieds, mais dans deux pays un peu différents. Mais il faut restituer, évidemment, à chacun de ces pays sa personnalité, son histoire, son identité. Et c'est pour ça que je suis très heureux aussi de venir parler de la Bretagne.
À travers ce livre, 50 objets qui racontent une histoire de la Bretagne, nous verrons que cette histoire entre le royaume des Francs, la France,
oui,
et puis le royaume, puis le duché de Bretagne est une histoire compliquée, qui n'est pas simple, hein, avec effectivement plusieurs siècles d'affrontements.
Occultée d'ailleurs, hein, cette histoire a été un peu recouverte par l'histoire de France, et c'est pour ça que, disons, je me donne un peu comme, entre guillemets, mission de continuer à écrire cette histoire et à la raconter sous différentes formes. Et effectivement, cette forme un peu originale des objets m'a séduite.
Et je rappelle juste quelques livres que vous avez écrits sur cette histoire de la Bretagne ou sur cette identité bretonne. Vous avez écrit La Bretagne pour les nuls, qui est une collection qui n'est pas nulle du tout. Au contraire, qui est une belle collection très intéressante chez First Edition, une brève histoire de l'identité bretonne chez Talendier, et puis encore Anne de Bretagne, une autre Anne de Bretagne, donc ça c'était chez Gallimard, hein. Et donc Anne d'Autriche a succédé à cette Anne de Bretagne.
C'est la deuxième Anne.
En effet, c'est la deuxième Anne marquée par les Annes,
voilà.
Que ce soit bretonne ou espagnol, était espagnol.
Oui. Ah, tout à fait, Anne d'Autriche, contrairement à son nom, est espagnole, évidemment. Voilà, fille de Philippe III, roi d'Espagne, petite-fille de Philippe II, arrière-petite-fille de Charles Quint. Une lourde hérédité.
Alors, Joël Cornette, je voulais vous poser la question traditionnelle sur ce livre. C'est un livre quand même particulier, c'est une approche particulière, l'histoire de la Bretagne à travers un coteau-objet. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée?
Voilà, j'ai d'abord longtemps hésité, et c'est vrai que c'est une commande d'éditeur. Voilà, donc on m'a appelé, et c'était une nouvelle collection qui se lançait, et c'est d'ailleurs le troisième volume de cette collection, publié par les éditions Hérol. Et donc l'idée, c'est de raconter une histoire, mais à partir d'une matérialité visible, physique, qu'on peut prendre dans la main, finalement, dans sa main, un objet. Voilà. Et donc le pari était de choisir 50 objets capables justement de raconter une histoire. Alors c'était pas évident, ça n'allait pas de soi. J'ai longtemps hésité, réfléchi, et puis finalement j'ai commencé à établir une liste d'objets, et bon, on arrive assez vite à 50 objets. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'un objet finalement? Voilà. Alors les dictionnaires sont utiles, et les dictionnaires m'ont appris que l'objet, c'est tout ce qui est fabriqué, imaginé, je dirais par l'homme. Donc ça donne une grande liberté, puisque ça part du plus petit objet possible.
Mais il y en a des tout petits d'ailleurs.
Voilà, il y a
tout
des
léger,
tout petits,
tout fragile.
Tout fragile.
Mais il y en a des gros lourds.
Voilà, le premier objet que j'ai choisi, on pourra y parler. On parlait un collier de perles, un collier fait de coquillages trouvé dans une tombe vieille de 7000 ans. Oui. Et puis des énormes objets. Alors j'ai choisi le plus énorme, qui est le cairn de Barnounès, qui est peu connu malheureusement, qui est une sorte de mégalithe extraordinaire, de monument. Alors on ne sait pas quelle est sa signification, funéraire, religieux, une immense construction de pierre de 14 000 tonnes de pierre entassées, avec des tombes à l'intérieur, qui se trouve au large de Morlaix. Je dis au large parce que c'était au bord de la mer. Et ce monument de Barnounès, vieux de 4 et 5 000 ans, avant Jésus-Christ, justement témoigne de l'importance de cette civilisation néolithique qui concerne aussi la Bretagne. Et d'ailleurs, André Malraux dit que ce monument, c'est le Parthénon des Bretons.
Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Parce que le Parthénon est moins ancien.
Oui, c'est vrai. Mais
un peu plus aérien.
Voilà, mais le cairn de Barnounès est plus ancien encore. Mais à vrai dire, l'objet qui m'a fait le plus démarrer dans cette histoire, je veux raconter une anecdote. Oui. C'est ma cousine qui malheureusement est décédée il y a quelques mois. Et elle possédait un bol, et un bol fêlé, ancien, mais réparé. Alors imaginez, aujourd'hui vous cassez un bol, vous allez chez Ikea ou ailleurs, enfin pour 3 euros vous le rachetez. Or ce bol a été réparé et transmis de génération en génération.
À votre cousine?
Voilà,
Il appartenait à votre cousine.
Voilà. Et alors, ce bol raconte toute une histoire. Mmh. Et voilà, justement, le fil de l'objet. C'est-à-dire que ce bol a été, comment dire, vendu, entre guillemets, par ce qu'on appelle les piloères. Les piloères, c'était des espèces de, comment dire, de brocanteurs ambulants qui, au 19e siècle, passaient avec une charrette dans les villages et apportaient avec eux des objets venus de la ville. Donc, ce bol en faïence, contre eux, des vêtements, des tissus, voire même des cheveux de jeunes femmes qui vendaient leurs cheveux pour avoir ou un objet ou quelques sous. Et donc, vous voyez, ce bol, un simple objet, nous transmet toute une civilisation, c'est-à-dire une civilisation rurale, une civilisation où on ne jette rien, une civilisation où on s'échange de façon prémonétaire des objets, les uns contre les autres. Et puis aussi, ce piloware, c'est celui qui établit la liaison entre, je dirais, la ville et la campagne. Mmh. Donc, c'est tout un monde, vous voyez, voilà, c'est ça qui m'a fait enclencher, si je puis dire, cette histoire par l'objet. C'est que la matérialité de ce bol fêlé réparé, et que maintenant j'ai gardé...
Je voulais vous poser la question. Vous l'avez gardé, c'est un objet plein de symboles.
Je regarde souvent. Alors, il ne vaut rien, si vous voulez, en termes financiers, mais il vaut tout en matière de civilisation.
Et vous savez, quand je vous écoute parler de ce bol fêlé, vous me faites penser à la maison de... Ça n'a rien à voir.
Oui.
Mais ça nous rapproche quand même de ce que vous expliquez sur la charge symbolique historique de ce bol fêlé, tout ce que ça représente.
Oui.
Et vous me faites penser à la maison de Fujita, du peintre Fujita, vous connaissez ça, japonais, après naturalisé français. Sa maison est en bordure de vallée de Chevreuse, pas très loin, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Ouais, c'est un joli terrain, en pente, mais une maison toute simple, en meulière, et à l'intérieur... On ressent vraiment la présence du peintre, et je pense que c'est dû pour partie justement à ce qu'il gardait comme objet.
Oui.
Pour beaucoup, ce sont des objets très simples, mais sans valeur financière particulière, mais certainement qu'il les gardait pour leur charge symbolique, et vous me faites penser à cela, et émotionnel, à tout ce que ça peut représenter.
Si vous me permettez, je voudrais vous citer un poème de Pierre-Jacques Essélias. On a parlé
dans
notre émission de Pierre-Jacques Essélias, qui n'est pas simplement le mémorialiste de la Bretagne, mais qui est aussi un grand écrivain, un grand poète. Et dans son recueil de poésie qui s'appelle « Manoir secret », il y a des vers absolument émouvants que j'ai envie de vous lire, si vous êtes d'accord.
Bien sûr.
Et ces vers sont consacrés à un certain Henri Saoudua, qui est justement un pilloère, ces chiffonniers colporteurs qui arpentaient les villages du centre de la Bretagne, la région de Carré, et qui donc échangeaient des objets contre des tissus, des pots, des chiffons. Écoutez ce poème, parce que ce poème, j'ai l'impression qu'il est en consonance avec ce bol fêlé que j'évoque, et qui est le premier objet, en quelque sorte, de ces 50 objets. Alors, je vais vous lire ce poème en français. Il était d'abord en breton, de Pierre-Jacques Essélias. Et vous allez voir, c'est tout à fait émouvant. Et pensez à ce bol, en écoutant ce poème. « Henri Saoudoua, c'est ton cœur qui casse dans les 7 morceaux du bol rouge au coq. Mais le chiffonnier, que veux-tu qu'il fasse? Il l'a dit d'argile et non pas de roc. Quand le chiffonnier m'a prêté l'écuelle, je lui ai rendu la peau d'un renard qu'il voulait tanner pour garnir la selle de son bidet brun, le bidet panard. Il m'avait juré, le doigt dans le cidre, que le bol vivrait autant que la peau, mais sa langue pue aussi fort que l'hydre, bien qu'il m'ait chanté le tiers du credo. Sur le poil doté, sur le poil doré, le cul bien à l'aise, il trotte aujourd'hui la lune au soleil, depuis Plougastel, où mûrit la fraise, jusqu'à l'Oquefrette, qui sent le métail. Il ne descend plus dans la Cornouaille, d'où il s'est enfui sans dire au revoir, mais il saura bien, l'enfant de canaille, que mon bol au coq s'est cassé hier soir. En passant de ferme en hôtellerie, le gars des chiffons se rira de moi. Ce lourdeau du sud est un Jean-Marie qui prend son bouet dans un bol de bois. Henri Saoudoua, que Dieu t'accompagne, l'homme était de foi quand il fit le troc. Il s'est enlisé hier dans la montagne, au marais du Yonne, quand mourut ton coq.
Ah, c'est beau.
Vous voyez, c'est extraordinaire.
C'est un beau poème. Hein,
Puisqu'on devine dans ce poème justement ce que je suggérais, c'est-à-dire la circulation de village à village, les objets prêtés, troqués, cassés, réparés, qui subsistent ou pas.
Je vous accorde, comment avez-vous choisi, vous avez expliqué pourquoi vous avez choisi ce bol fêlé, et comment avez-vous choisi les 49 autres objets, parce que ça couvre à peu près 12 000 ans d'histoire.
Et voilà.
Le plus vieux, nous allons le voir, date de 5400 avant Jésus-Christ. Les derniers sont contemporains, donc on est sur 7000-8000 années.
Absolument.
Comment avez-vous choisi 50 objets?
Écoutez,
votre connaissance, mémoire.
Je me sens quand même historien. Donc, si vous voulez, le point commun de tous ces objets, c'est leur rapport avec la chronologie de la Bretagne, que par ailleurs je connais, que par ailleurs évidemment j'ai raconté dans plusieurs livres. Donc là, il s'agissait à partir de chaque objet de mettre en valeur soit un moment, soit une personne, soit un événement. Alors par exemple, je vais prendre un exemple pour l'événement. Le dernier objet, c'est un bonnet rouge tissé par Armor Lux. Excusez-moi, je fais de la publicité peut-être, mais voilà. Mais ce bonnet rouge, évidemment, est en consonance avec la révolte des bonnets rouges de 2013, qui elle-même est en consonance avec d'autres bonnets rouges, ceux de 1675, puisqu'il y a eu, au temps de Louis XIV, une grande révolte antifiscale contre, disons, les impôts imposés par Louis XIV et Colbert dans le cadre de la guerre de Hollande. Donc vous voyez, cet objet, ce dernier objet du livre, le tissé par Armor Lux, bonnet rouge, immédiatement nous projette justement dans cette longue durée d'un imaginaire breton qui est aussi la réalité d'une résistance. Puisque ce qui caractérise aussi bien la révolte de 2013 que celle de 1675, même si évidemment comparaison n'est pas raison et que la concordance de temps fait que chaque période est complètement différente, il y a tout de même là une sorte d'ADN dans l'histoire de la Bretagne qui est la résistance à l'autre quand l'autre impose quelque chose qui n'est pas perçu comme, je dirais, allant de soi. Et en l'occurrence, là, c'est une surfiscalisation. En 1175, c'était le papier timbré, c'était une taxe entre l'étain, sur l'étain, et le tabac aussi. En 2013, bah, c'est l'écotaxe, hein, une taxe qui a été imposée aux poids lourds, notamment, et ça a évidemment révolté nombre de Bretons. Voilà. Donc, vous voyez, l'objet, là, un simple bonnet tissé renvoie à la grande histoire. Et donc, le découpage du livre est ainsi fait. Il y a un cahier des charges, évidemment, et je m'y suis tenu. L'éditeur a tenu à ce que chaque objet, disons, soit raconté, puisque je raconte, finalement, l'histoire de chaque objet en 6-7 000 signes. Donc, ça tient sur 2-3 pages. Et à chaque fois, disons, il faut aller droit au but pour montrer au lecteur en quoi cet objet est emblématique, voilà, d'un moment particulier de l'histoire de la Bretagne.
C'est une présentation aussi qui est très pédagogique parce que les objets sont rassemblés par parties.
Oui.
Et les parties tout principales, ce sont les étapes principales de l'histoire de la Bretagne.
Voilà, c'est-à-dire que j'ai... Alors ça, c'est mon découpage, hein. Disons, j'ai découpé l'histoire de la Bretagne, et même de la Bretagne avant la Bretagne, en 6 grandes séquences, si vous voulez. Alors, on peut les rappeler,
oui,
puisque ces séquences constituent la trame, finalement, de cette histoire, qui, encore une fois, je le rappelle, souvent occultée, et c'est pour ça que j'ai envie de la défendre. La première séquence, et à chaque fois, je choisis 6 ou 7 objets par rapport à cette séquence, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les 6 parties. Alors, la première partie, première séquence, je l'ai appelée « La Bretagne avant la Bretagne », puisqu'évidemment, il y a une très longue histoire, ou préhistoire. Alors, il n'y a pas de documents écrits, ou très peu de documents écrits. Il faut attendre, en gros, l'Empire romain. Mais justement, il y a des objets. Et là, les objets prennent toute leur valeur. Et le premier objet de cette séquence originelle, justement, c'est un objet trouvé dans une tombe.
Alors nous en parlerons, on va rentrer dans le détail, Joël Cornette. Je vous propose que vous poursuiviez cette excellente attention qui est de nous présenter les principales parties. Comme ça, on aura bien en tête tout ce fil conducteur de l'histoire de la Bretagne.
La Bretagne avant la Bretagne, en gros, ça va justement de, disons, 7000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à la fin de l'Empire romain, c'est-à-dire 4e, 5e siècle, à l'époque justement où les grands Bretons, vous l'avez évoqué dans votre introduction, commencent à arriver de façon de plus en plus massive dans ce qui va devenir la Petite Bretagne, la Bretagne, qu'on va appeler la Bretagne d'ailleurs, à partir du 6e siècle. Et là, c'est ma deuxième séquence, j'ai appelé ça la naissance d'une Bretagne indépendante, puisqu'il se trouve que cette Bretagne va s'affirmer comme pratiquement un État, du moins une entité, déjà politiquement, disons, indépendante par rapport à la tutelle que voudraient imposer, notamment les Carolingiens. Et donc cette histoire est faite de résistance, une résistance acharnée. On pourra y revenir en détail, évidemment. Donc cette deuxième séquence va en gros du 5e siècle jusque, disons, la période de la féodalité, c'est-à-dire en gros la fin de l'ère viking. Enfin, puisque les vikings en Bretagne, on pourra y revenir, ont joué aussi un rôle important de déstructuration de ce qui était, disons, un premier état de la Bretagne. Alors la troisième séquence, je tiens à cette troisième séquence, elle est importante parce que c'est une partie souvent occultée de l'histoire de la Bretagne, c'est la naissance et l'affirmation d'un État breton, c'est-à-dire une véritable souveraineté, que certes les Capétiens n'ont jamais acceptée, mais que les Bretons ont revendiquée. C'est-à-dire que, et notamment dans cette partie qui va du 11e siècle jusqu'à la fin de cette Bretagne indépendante, c'est-à-dire l'époque d'Anne de Bretagne en gros, là, la Bretagne fait figure de véritable État, avec ses institutions, avec sa monnaie, avec ses ambassadeurs à Rome, avec un duc, avec une technostructure, et déjà en avance sur le temps, hein, alors que la France fait face à la guerre de Cent Ans, la Bretagne s'affirme comme un État riche, prospère, à partir des deux assises que sont l'industrie textile, très importante, et puis le commerce. J'avais oublié que la Bretagne est projetée vers la mer, et que ce commerce océanique est vraiment l'ADN de son identité économique, commerciale, commerçante, Les Bretons sont les rouliers des mers, et donc dans cette partie, j'ai mis en valeur justement tous ces éléments qui font que la Bretagne aurait pu avoir le destin d'un pays indépendant, comme la Suède, le Portugal par exemple, s'il n'y avait pas eu ce puissant voisin qui est le Capétien que j'évoquais. Et ça se termine évidemment très mal cette histoire, puisque comme vous le savez, et c'est ma quatrième séquence, la Bretagne devient une province du Royaume de France, de façon autoritaire, de façon imposée, par le roi, notamment par François Ier, puisque la grande date de l'annexion officielle de la Bretagne à la France est 1532, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, mais le terme ne va pas, c'est pas un traité, c'est une obligation finalement d'être intégré au royaume, donc la Bretagne devient une province. Et donc c'est ma quatrième séquence, on pourra en parler des objets justement qui mettent en valeur... Oui. À la fois quand même la prospérité qui continue, mais aussi la singularité de la Bretagne, notamment marquée par un catholicisme de combat qui justement est contemporain de cette annexion au Royaume de France, notamment par... j'ai accordé une grande importance notamment aux missions du Père Monnoir, qui se fait avec des taolénous, c'est-à-dire un objet, c'est-à-dire une image... peinte, si je puis dire, sur une peau, sur un parchemin, et qui indique aux fidèles le meilleur chemin pour arriver au salut. Alors, la cinquième séquence, c'est à partir de la Révolution, puisque la Bretagne, évidemment, de façon éminente, participe à la Révolution, et là, je vais de la Révolution à la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de la Révolution 1789 jusqu'en 1914, et j'insiste beaucoup sur un 19e siècle un peu déprimé, un peu où la Bretagne passe, disons, à côté de la Révolution industrielle. Là, c'est une Bretagne en difficulté, majorité paysanne. Le symbole, ça pourrait être Bécassine, cette jeune fille, justement, qui doit partir de la Bretagne et puis offrir ses bras et son travail, en l'occurrence dans la région parisienne. Donc ça, c'est la cinquième partie. Et la sixième partie, c'est les chocs du 20e et 21e siècle, de la Première Guerre mondiale jusqu'au bonnet rouge de 2013. Donc vous voyez, six séquences... qui mettent, j'espère, bien en valeur la singularité de l'histoire de la Bretagne, et en même temps ses relations à la fois tourmentées et puis quand même importantes, avec la France, puisque la Bretagne maintenant fait partie intrinsèquement de la France, même si elle a une personnalité, je dirais, intrinsèque.
Nous allons évoquer, bien sûr, toutes ces étapes, ces six étapes principales de l'histoire de la Bretagne, à travers donc les objets que vous avez choisis et qui illustrent très bien donc ces différentes étapes avec leur complexité. Alors, des étapes sont plus complexes que d'autres, notamment, il y a deux étapes, la Bretagne des origines semble être la Bretagne des Gallos, la Bretagne des Celtes, des Celtes bretonnants, des Gaëls en quelque sorte, arrive après. Donc ça c'est un aspect effectivement intéressant à étudier, comment justement les Bretons de Grande-Bretagne ont-ils pris le contrôle ou se sont-ils limités simplement à la partie ouest? Vous nous aviez expliqué que là où ils s'étaient installés, on trouvait des plous. Voilà. Et puis la frontière, c'est la frontière de langue bretonne. Ça va être une langue bretonne puisque dans la Bretagne de l'origine, on parlait gallo, on parlait patois gallo.
C'est des révélateurs. C'est la toponymie.
C'est ça.
Voilà, faute de sources écrites, puisque ce sont vraiment les âges obscurs, comme disent les Anglais de leur histoire de ce temps.
Donc ça, c'est un point que nous aborderons, en effet.
Voilà, on n'a pas de documents, et donc la toponymie peut être un révélateur. Et justement, vous l'avez dit, tous les villages qui commencent par Plou peuvent être superposés, justement, à ces vagues d'arrivée des Grands Bretons. Par contre, les noms en ax sont plutôt gallos, c'est-à-dire restent, en quelque sorte, gallo-romains. C'est vrai qu'il y a une frontière linguistique qui est actuellement, disons, de Saint-Brieuc à Vannes, et qui marque bien la séparation, justement, d'une Bretagne bretonnante à une Bretagne plutôt française.
Je vous pose cette question parce que, alors c'est peut-être un peu candide, un peu naïf. On a un peu l'impression, vu de l'extérieur, qu'on ne connaît pas cette histoire dans le détail, que eh bien, ceux que l'on entend le plus, ceux qui revendiquent leur plus leur identité bretonne, qui veulent mettre des panneaux bilingues, qui veulent que la langue bretonne soit reconnue, etc. Finalement, ils sont arrivés au 8e siècle. Et que la Bretagne des origines...
Avant le 8e. Hein,
7e.
Oh non, 5e.
5e siècle. 5e, 6e. Et que la Bretagne des origines, c'est la Bretagne gallo, finalement. Et donc, qu'on évoque assez peu. On a l'impression que l'identité bretonne, par cette action très visible, se limite justement à cette Bretagne bretonnante. Alors que non, l'histoire de la Bretagne, c'est aussi l'histoire
bien
de
sûr,
la Bretagne dite gallo, qui occupe la moitié du terrain. Hein,
et c'est pour ça que je préfère à la notion de la Bretagne mettre un pluriel.
Ça tombe très bien. Merci pour cette transition, Joël Cornette, parce que je voulais justement vous poser cette question. Il y a une introduction que vous écrivez, et en pochette, il y a une carte. Des Bretagnes, justement. Les Bretagnes, intitulez-vous cette carte, sans pays, sans guise, sans paroisse, sans église. En breton, ça donne Cant Bro, Cant Guise, Cant Paresse, Cant Élise. Alors, l'accent n'est certainement pas là. Et je voulais vous interroger, justement, pourquoi les Bretagnes? Vous alliez y répondre, justement.
Les Bretagnes, parce que l'identité se fait d'abord de manière très locale.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de culture presque de la paroisse, du pays. Mmh. Et chaque pays a sa particularité. Et la preuve de cette particularité, c'est l'importance, et d'ailleurs c'est un des objets que j'ai choisi, du costume breton. Hein. Et au XIXe siècle, chacun s'habille à sa guise. Et j'emploie volontairement s'habiller à sa guise, puisque l'expression vient justement du costume particulier de chaque...
S'habiller à sa guise.
Voilà, absolument. La guise, c'est le...
Ça vient de ça, donc sans guise, c'est le costume.
Absolument, c'est le...
Donc venez
vêtement.
Comme vous voulez, c'est venez à votre guise.
Oui, absolument.
Comme dirait McDonald's.
Tout à fait.
Hein, on peut venir en costume breton.
Absolument, et ça vient de la Bretagne. Et donc, si vous voulez, ce proverbe, sans pays, sans guise, sans paroisse, sans église, ça dit bien, justement, le fait que... La Bretagne a vraiment une personnalité, mais à l'échelle d'une identité paroissiale.
Guise, c'est du patois gallo?
Oui, c'est...
C'est un patois gallo, Guise.
Et ça veut dire vêtement. Voilà, je ne sais pas si les auditeurs le savaient, mais vous voyez, s'habiller à sa guise, ça vient vraiment, c'est enraciné dans cette personnalité des Bretagnes, justement, où chaque paroisse... Et d'ailleurs, on a évoqué dans une émission Pierre-Jacques Esselias, il raconte justement, dans son pays de Plozévette et de Pouldreuzic, justement l'importance de la personnalité de chaque lieu, de chaque
paroisse. S'il y a 100 Bretagnes, en s'inspirant de... S'il y a 100 Bretagnes, 100 pays, s'il y a 100 Bretagnes, y a-t-il une âme bretonne? Parce que vous revenez souvent sur ce terme, âme bretonne. Est-ce qu'il y a une âme bretonne à partir du moment où il y a 100 en Bretagne?
C'est
et quelle est cette âme bretonne? On pose souvent la question. Hein.
Vous évoquez quelque chose d'invisible finalement. Qu'est-ce que c'est l'identité et comment se reconnaît-on? Mais c'est vrai que vous pouvez faire l'expérience, deux Bretons qui se rencontrent dans un pays étranger immédiatement se reconnaissent comme venant... d'une même...
Qu'ils soient du pays coglais, ou qu'ils soient du Baléon, ils vont se reconnaître.
Moi, je crois. Mais alors, on est dans l'invisible, si vous voulez. Je ne peux pas définir, évidemment, ce sentiment un peu mystérieux qui est l'identité, la reconnaissance. Mais il y a tout de même des marqueurs. Le marqueur, d'abord, c'est la géographie. Hein. La Bretagne, ce n'est pas n'importe quel pays, c'est une péninsule marquée par la mer, de part en part. D'autre part, la frontière est restée pendant très longtemps la même, pratiquement du 7e siècle jusqu'en 1941, qu'on a enlevé la Loire Atlantique de la Bretagne, la Bretagne est restée homogène sur le plan des institutions, officielles, et puis la langue. Et puis l'histoire. L'histoire, c'est un autre socle, je crois, de l'identité bretonne. Non, il y a quand même des marqueurs extrêmement importants, inscrits dans la longue durée, qui font que ce pays a vraiment une personnalité, une singularité vraiment importante.
Lorsque nous aborderons le dernier objet, Joël Cornette, je vous poserai la question de la survivance de cette personnalité face au monde moderne, face au surtourisme, face aux résidences secondaires qui se construisent partout et qui défigurent les paysages, qui sont toutes bâties sous le même format. Est-ce que, malgré ça, l'âme bretonne peut perdurer?
C'est une question que je vous poserai
à la fin, mais on va pas l'aborder maintenant, sinon on va commencer par la fin.
C'est un enjeu pour le futur.
En effet, voilà. Et puis alors, l'autre aussi, question complexe, donc on a parlé celle-là, en quelque sorte des origines entre Grand-Breton et Gallo, qui vivait dans ce pays depuis fort longtemps. L'autre question aussi que je vous proposerai de creuser quand ça sera le moment, c'est celle justement de ce lien de vassalité entre les rois de Bretagne et les ducs de Bretagne par la suite. Quelle est la réalité de ce lien de vassalité? Ça, c'est une... Parce que c'est la question du droit. Alors, le droit devant la force, ça n'est pas grand-chose. Et la force, finalement, c'était celle des Francs.
La vassalité des ducs de Bretagne par rapport aux rois de France.
Oui, c'est ça, voilà. Mais ça, on l'abordera
au
moment d'Anne de Bretagne.
Oui. Voilà, et notamment, les ducs de Bretagne, pendant très longtemps, ont refusé ce qu'on appelle l'hommage lige.
C'est ça.
Aux rois de France. Et qu'est-ce que c'est l'hommage lige? On pourra y revenir, moi je peux déjà en parler, puisque ça a été vraiment un des marqueurs justement de l'identité de l'État breton. L'hommage lige, celui qui dépend d'un suzerain doit se mettre à genoux et prêter serment d'obéissance entre les mains de son suzerain, de lui obéir, de prendre les armes s'il le faut, de le défendre. Voilà, c'est donc un statut de complètement souveraineté du roi par rapport au duc de Bretagne. Et les ducs de Bretagne, justement, ont refusé cet hommage lige pour un simple hommage simple, c'est-à-dire une reconnaissance, disons, de la réalité du roi de France, mais sans tutelle de ce roi de France sur la Bretagne. Voilà. Et donc ça a fortement mécontenté les rois de France, et notamment Louis XI, voilà un exemple, qui n'a pas supporté, justement, cette volonté d'indépendance des ducs.
Voilà. Mais la question que je vous poserai, on reviendra dessus, parce que en matière de droit, ça paraît important pour l'histoire de l'indépendance de la Bretagne, c'est la réalité de cette vassalité. Alors quand on lit votre livre, en effet, vous expliquez que les Francs se considéraient comme les héritiers des Romains, et à ce titre, avaient le commandement juridique, en quelque sorte, sur la Bretagne, comme les Romains l'avaient. Mais qu'est-ce que ça vaut, ça, cette explication de l'histoire? C'est une question que je vous poserai à ce moment-là, parce que est-ce que, en quelque sorte, l'annexion se justifie en droit ou pas? Sachant que François Ier, je ne sais pas si le roi l'étouffait beaucoup.
Là, c'est-à-dire il y a deux logiques contradictoires. Hein, la logique du roi de France et la logique des ducs de Bretagne.
Oui, ah bah c'est opposé. Oui.
Et les ducs de Bretagne s'estiment vraiment indépendants.
Oui.
Et la preuve, c'est l'histoire. C'est-à-dire que, justement, les premières grandes histoires de la Bretagne ont été financées par les ducs de Bretagne, et notamment par Anne de Bretagne, qui s'est beaucoup, je dirais, servi des historiens pour bien montrer que la Bretagne avait une histoire même antérieure à la France. Le premier ancêtre de la Bretagne, ça remonte très haut, hein, dans un imaginaire. Il y a à la fois Brutus et puis les chevaliers de la Table Ronde. Voilà. Mais justement, c'est bien avant les Capétiens, disent les premiers historiens. Je pense à Pierre Le Beau, Alain Bouchard, au XVe siècle, qui ont justement... Alors, on pourrait parler d'instrumentalisation, mais à la limite, chaque État se sert justement de l'histoire et de l'antériorité de la présence d'une société, d'une civilisation, pour affirmer justement l'indépendance et la souveraineté. Et c'est le cas de la Bretagne.
Alors vous évoquez en Brutus, Joël Cornette, est-ce que le terme breton vient de Brutus?
Certains le disent, mais là on se perd un peu dans des querelles d'attribution. Hein, mais je pense que le terme de breton vient en fait de l'arrivée des grands bretons.
Oui, mais leur propre nom de grand breton, est-ce que ça vient de Brutus, de Brut?
Une des multiples interprétations, on est un peu dans l'imaginaire, si vous voulez. N'empêche que la Bretagne existe et qu'on la nomme, et que le terme Bretagne apparaît... justement au VIe siècle, à l'époque où justement les grands bretons ont pas envahi, le terme est un peu fort, mais se sont installés en Bretagne. Mmh. Et d'ailleurs, un des premiers à utiliser ce mot Bretagne en tant qu'État indépendant, c'est Grégoire de Tours. Et Grégoire de Tours est un de nos seuls informateurs de cette période très sombre, justement, et un peu mystérieuse, oui. Qui correspond au début, la naissance de la Bretagne.
Parce que la Bretagne est arrivée avec les Celtes ou les Gaels, Grands Bretons. Donc 5e siècle, disiez-vous, hein, oui. À partir du 5e siècle.
6e,
oui. 5e, 6e siècle, à partir du moment où, en effet, les Saxons envahissent progressivement... Oui. La Grande-Bretagne, bien que certains aient résisté, parce que l'histoire du roi Arthur, c'est l'histoire de cette résistance aux Saxons, c'était en Pays de Galles.
Absolument, le roi Arthur résiste justement aux Saxons. Ces invasions saxonnes.
Mais les Écossais les Scots aussi.
Oui, mais justement, le roi Arthur, on est entre la réalité et l'imaginaire, si vous voulez. Oui. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop s'il est en Grande ou en Petite-Bretagne. Vous voyez, Brocéliande et toutes les légendes qui entourent la Table Ronde. Donc, vous voyez, je ne peux pas trop m'avancer.
Oui,
parce que
la résistance des Gallois est une réalité aux Saxons, en revanche. Ça, c'est une réalité.
Tout à fait.
Et que les Gallois, ce sont des Celtes, comme nos petits Bretons, sont les Grands Bretons.
Tout à fait.
Les Grands Bretons, c'est aussi les Écossais, non ?
Non,
c'est surtout les Gallois.
Surtout les Gallois. Voilà, et c'est du sud-ouest de l'Angleterre, en quelque sorte, que viennent justement une majorité de ces Grands Bretons qui cherchent refuge dans la Petite-Bretagne. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de singularité celtique et qui parcourt tout le littoral, disons, atlantique, du Portugal jusque justement l'Irlande au nord. Donc,
ces Grands Bretons vont immigrer aussi bien en Armorique qu'au Portugal ou en Galice.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment une solidarité atlantique, si vous voulez, qui fait que, d'ailleurs, la Bretagne est de ce point de vue tout à fait différente du royaume de France, qui est un royaume terrien. Un royaume, disons,
À partir de quand on passe du terme armorique, avant ces grands bretons, c'est Gaels, c'est l'armorique, hein ?
Absolument.
Quand passe-t-on au terme Bretagne ?
Et l'armorique, d'ailleurs, couvre un territoire beaucoup plus vaste que la seule Bretagne. Hein. L'armorique, c'est presque tout le littoral ouest de la future France. Hein. Et l'armorique, donc, on l'appelle ainsi dans l'Antiquité. Et justement, il faut attendre, c'est au 6e siècle terme de Bretagne apparaît.
Utilise pour la première fois ce terme de Bretagne ?
J'ai évoqué Grégoire de Tours, mais parallèlement à Grégoire de Tours, il y a d'autres, Procope de Césarée par exemple, qui est un lettré, parle de la Bretagne. Donc on a différents indices, si vous voulez, qui font que la Bretagne est vraiment la considérer comme... sinon un pays, du moins une entité géopolitique particulière, avec des habitants, avec, disons, des habitudes de vie et de comportement politique ou économique particuliers.
C'est donc cette invasion guerrière ou pacifique, on ne sait pas trop, hein, je vous avais déjà posé la question, de ces grands bretons qui provoquent la naissance, en quelque sorte, de la Bretagne, qui diffère de l'armorique.
Oui,
qui n'est pas l'armorique.
C'est pas l'armorique, c'est la Bretagne. Tout à fait. Et vous avez raison de dire qu'on ne sait pas trop si ça s'est fait pacifiquement ou de façon plus tendue. Alors, il y a quelques indices archéologiques qui montrent que certains villages ont voulu se défendre justement contre l'arrivée de ces grands Bretons. Donc, il y a eu sans doute des conflits. Mais notre principale source, c'est des vides saints. Et les Vitsains, disons, donnent de l'arrivée des Grands Bretons une image un peu irénique, une image un peu pacifiante, et sans doute exagérée, hein, puisque ces Grands Bretons apparaissent comme justement ces saints, c'est-à-dire ces hommes héroïques qui évangélisent en même temps la Bretagne, pour en faire un pays d'une catholicité d'ailleurs particulière. Hein. C'est pas tout à fait la même religion que celle qui est professée dans la Gaule des 5e et 6e siècles.
Je suis un peu candide, un peu provocateur dans ma question, je voulais le connaître, mais je ne suis pas sûr que les indépendantistes bretons ou les autonomistes bretons, ou ceux qui portent très haut la culture bretonne, apprécieraient qu'on les assimile à des colonisateurs c'est pourtant la réalité.
C'est une forme de colonisation.
C'est une forme de colonisation qui s'est produite à partir du 5e siècle, en effet.
Le terme est peut-être trop moderne, mais c'est la réalité.
C'est la réalité.
Et les gens qui arrivent d'ailleurs en Bretagne... Ouais. Il ne faut pas les imaginer comme des sauvages, c'est des gens instruits, c'est des gens, disons, chrétiens, cultivés, pas tous évidemment, mais en tout cas les chefs et ceux qui apparaissent comme les saints justement de cette Bretagne primitive, sont évidemment tout à fait importants.
Et j'aimerais vous poser une dernière question et nous allons faire une pause musicale, oui. Joël Cornette. Donc, vous nous avez expliqué comment vous aviez écrit, bâti ce livre autour de ces 50 objets eux-mêmes rassemblés dans 6 parties qui correspondent aux parties principales de l'histoire de la Bretagne. Donc, à travers ce résumé, nous percevons la grande complexité. Eh bien, j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous êtes vraiment un Breton, vous êtes un Breton de Brest. Alors, je ne sais pas si on peut dire que les Bretons de Brest, ça soit des gens du Léon, hein, parce que Brest, c'est particulier, je crois, oui, vous nous aviez expliqué
Brest,
ça.
C'est la ville de Richelieu, hein. Mont-Brest, oui. Il disait, c'est une ville d'État, c'est une ville maritime, mais marine de guerre. Et Brest, c'est un peu, comment dire, voilà, une colonisation, mais cette fois de l'État royal. Qui a fait de Brest, justement, une enclave française, franco-française, à l'intérieur de la Bretagne.
Mais est-ce que chez vous, vous avez des objets particuliers que vous appréciez particulièrement et qui sont porteurs de tout ce que vous aimez dans cette Bretagne qui vous est chère?
J'évoquais ce bol, hein, que maintenant...
En effet, que vous présentez. Ce bol, oui.
J'ai aussi une bibliothèque, évidemment, des livres sur la Bretagne. Voilà, mais pas tellement d'objets bretons,
non.
Si vous voulez.
Mais
voilà.
Pas d'objets qui vous parlent particulièrement.
Il y en a plus dans le livre que
chez vous.
Que chez moi.
Vous, voilà. C'est les livres, en fait, hein, qui vous parlent le plus.
Voilà.
Notamment ceux que vous avez écrits.
Je suis plutôt un homme de livres, hein, c'est logique. Hein,
c'est normal.
De sources. Voilà, donc je possède vraiment des... Bon, évidemment pas mal de livres importants, hein. Je pense à la grande histoire de la Bretagne, d'Arthur de la Borderie, qui est un peu notre Michelet breton, et justement c'est un des premiers justement qui a mis en valeur cette mythologie de l'histoire de la Bretagne, il a un peu mythifié justement le début de la Bretagne en érigeant Nominoé, notamment, je ne sais pas si on va
en parler, peut-être pas aujourd'hui.
Qu'il considère comme le premier roi breton, c'est faux, oui. Hein, Nominoé n'a jamais été un roi, mais Nominoé a participé justement à l'indépendance de la Bretagne, par rapport aux Carolingiens.
D'accord. Alors je vous propose, si vous voulez bien, Joël Cornette, une pause musicale. Oui. Qu'avez-vous choisi?
Alors j'ai choisi, écoutez, elle s'appelle Marie-Yvonne, Eugénie et Anastasie, et ce sont les trois sœurs Guadec. Alors ça rappelle peut-être quelque chose à nos éditeurs, les sœurs Guadec, c'est vraiment des dames qui viennent vraiment de la Bretagne intérieure, qui chantent, voilà, et qui ont un succès extraordinaire dans les années 70, qui est la grande période justement du renouveau de l'identité bretonne, et notamment ces trois sœurs chantent dans des fest-noz, des fêtes de nuit, qui sont de plus en plus importantes. Elles ont un tel grand succès qu'elles ont été invitées à Paris, à la Mutualité, et même à Bobino, où elles ont chanté en 1973, et donc je propose justement une de ces chansons, qui est la chanson de la bergère, qui est un can-an-dis-can, je prononce mal le breton, justement, je suis brestois et je ne parle pas le breton, mais qui est un chant, un contre-chant typique, justement, du centre de la Bretagne. J'évoquais ce bol fêlé.
Oui.
Eh bien, imaginez que les paysans et les paysannes qui ont ce bol fêlé, eh bien, chantent ce que nous allons maintenant entendre.
Eh bien, nous écoutons. La 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 la
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après ce chant des sœurs Gualec, nous reprenons le cours de cette émission en compagnie de Joël Cornette à l'occasion de la publication de son livre aux éditions Erol, 50 objets racontent l'histoire de la Bretagne. Et Joël Cornette, en cette première partie de discussion, en effet, nous a présenté un panorama général de cette histoire complexe avec des questions qui se posent toujours. Il nous a expliqué aussi les raisons, la particularité de la Bretagne et comment, en effet, on les retrouve dans les objets qu'il a sélectionnés. Je vous propose maintenant, Joël Cornette, si vous en êtes d'accord, de rentrer dans votre livre. Bon, nous avons commencé à le faire. Vous avez déjà évoqué un certain nombre d'objets particuliers, objets très légers ou objets très lourds, hein, puisque
oui.
dans vos choix, il y a des menhirs, il y a des tumulus, et puis il y a des choses très très légères, comme d'ailleurs votre tout premier objet,
Alors. Le
collier de coquillages de Teviec, qui est dans la première partie. La première partie, c'est en effet la Bretagne avant la Bretagne. Rappelons que la Bretagne, elle naît avec l'arrivée des Grands Bretons, ce que vous avez expliqué, vers 5e, 6e siècle après Jésus-Christ. Avant, on est en Armorique. Alors l'Armorique, qu'est-ce que c'est? L'Armorique qui n'est donc pas encore bretonne, qui occupe cette Armorique? Eh bien, c'est une réponse que vous apportez déjà avec ce collier de coquillages de Teviec. Alors, je vous laisse évoquer ça, Joël Cornette.
Oui, alors Teviec, c'est une petite île qui se trouve au large, au sud de la Bretagne, au large de Saint-Pierre-Quiberon. Et des fouilles ont été menées dans les années 20, 1928-1930, par un couple d'archéologues amateurs et érudits. Et ce couple a découvert des tombes enfouies. Et dans ces tombes, des restes, des squelettes, donc découverts sur l'îlot. Et ces squelettes, il s'avère que ce sont les plus anciens restes. Alors, on va parler de Bretons, puisque vous l'avez dit, les Bretons apparaissent au VIe siècle.
Comment on va les appeler?
Les premiers habitants, premières traces humaines conservées, parce que, alors, il y avait des habitants bien avant, hein, alors je ne dis pas archéologues, mais les archéologues datent, disons, l'arrivée des premiers hommes en Armorique il y a peut-être 600 000 ans, vous voyez. Or là, la tombe de Teviec nous fait remonter, alors, à une période plus récente, mais tout de même, il y a 8 000 ans, c'est-à-dire, voilà. Et donc, on a découvert une série de tombes avec des personnes, enfin, maintenant il reste des squelettes dans ces tombes, et notamment des squelettes qui ont, voilà, qui sont environnés d'objets, des objets curieux, et notamment ce collier, un collier de littorine, c'est-à-dire des petites coquilles du rivage, qui entouraient donc le cou de deux personnes dans ces tombes. Et alors cet objet est tout à fait intéressant finalement, puisque c'est le premier lien qui nous relie, si je puis dire, à une vie collective, parce que ces tombes supposent déjà une organisation, une croyance évidemment, peut-être, parce que évidemment ils sont enterrés de manière un peu particulière, au-dessus des têtes on a retrouvé des espèces de cornes, des sortes de bâtons de commandement en bois de chevreuil ou de cerf. Est-ce que c'est des ancêtres lointains d'un sceptre de pouvoir, de royal, entre guillemets? Bon, alors, nous sommes ici dans les hypothèses, évidemment. Et qui sont ces personnages? S'agit-il de jeunes filles, de jeunes hommes? Alors, il y a eu des controverses multiples et des analyses contradictoires. Mais justement, c'est tout à fait intéressant. On est là au tout début, finalement, de la préhistoire. On n'a pas de texte, on n'a pas... Les seules archives qu'on ait, justement, ce sont ces restes, les plus anciens restes humains en armorique.
Alors, il y a une photo, saisissante que vous proposez dans votre livre sur deux squelettes de cette île Teviec. Oui. Ce sont deux femmes.
Alors, justement, controverse.
Elles sont un peu les jambes repliées.
Oui, deux individus placés en position semi-assise, les jambes repliées, un collier donc, de coquillages nacrés autour du cou. Et la fosse est surmontée de bois de cervidés au niveau de la tête.
On voit très bien les bois de cervidés, en effet.
Voilà.
Et ça, c'est l'état actuel. On les a laissés comme ça.
Oui, absolument.
Avec le collier autour du cou.
Tout à fait. Absolument.
On n'a pas sorti le collier, c'est tel quel.
C'est tel quel, oui, absolument. Oui. Et donc, on a d'abord conclu qu'il s'agit de deux femmes victimes d'une mort violente, à l'image d'autres défunts qui les entouraient. Voilà. Alors, est-ce que, justement, on est dans une société de violence, une société pacifique? Et il y a eu, disons, d'autres recherches. Et en 2016, un docteur en médecine et anthropologue, il s'appelle Bruno Boulestin, a repris le dossier. Et actuellement, alors maintenant, il dit qu'il s'agit en fait de squelettes d'un adolescent âgé de 15 à 19 ans et d'une femme. Et il écrit « Cette histoire de massacre est un véritable roman, totalement faux, car sur les crânes, dit-il, aucun critère de fracturation sur eau frais n'est présent. Il n'y a eu aucune lésion traumatique. » Mais vous voyez, les hypothèses, c'est-à-dire ce qui est en jeu à travers ça, c'est évidemment la nature de ces sociétés. Pacifiques, guerrières, y a-t-il des conflits? Quel est le statut de ces personnages par rapport à la société? Parce que c'est quand même une société dans laquelle ils vivent. Bon, ça reste évidemment un mystère. Et encore une fois, nous sommes 8000 ans. Il y a 8000 ans.
C'est déjà une île? À l'époque, il y a 8000 ans, avant Jésus-Christ,
elle était reliée.
Elle était reliée au continent.
Elle était reliée.
L'eau a monté
au continent, puisque vous savez qu'il y a eu une hausse
du niveau
de la mer, qui fait que maintenant c'est une île, mais à l'époque, elle était reliée au continent.
Comment ont-ils trouvé la tombe, là, nos archéologues? Est-ce qu'il y a un tumulus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui repère la tombe?
Je pense que oui, ils ont fait des recherches, ils ont fouillé, ils ont trouvé.
Il y a un tumulus, quelque chose, non?
Et nous sommes en fait dans la grande, disons, dans la grande zone mégalithique du sud de la Bretagne. Je pense à Carnac. D'ailleurs, Carnac, je l'ai intégré parmi les objets. Donc, il est évident que là, il y avait vraiment, au bord du littoral, une vie collective, une vie importante. Et donc, cette tombe, c'est le premier acte, en quelque sorte, de cette préhistoire de ce qui n'est pas encore la Bretagne, mais qui est l'Armorique. Et c'est pour ça que ce collier est émouvant, finalement, parce que il met en valeur, justement, déjà, un rapport peut-être à son corps, à soi, une croyance peut-être dans un au-delà possible.
Est-ce que ce sont déjà des Celtes? Parce que les Celtes couvrent quasiment toute l'Europe occidentale, d'ailleurs. Celtes et Germains.
Non, je pense qu'il y a eu... c'est avant les Celtes.
C'est avant les Celtes.
Oui, c'est avant les Celtes.
Quand les Celtes arrivent-ils en Bretagne?
Là aussi, c'est des controverses, c'est plus tard.
C'est plus tard.
6e, 7e siècle avant Jésus-Christ.
Donc c'est relativement récent là aussi.
Voilà, c'est
beau. Eux viennent d'Europe centrale.
Voilà, et eux, ils apportent avec eux une autre culture guerrière, avec un métal important, enfin une métallurgie importante. Donc on change vraiment, on passe de l'âge de la pierre à l'âge des métaux, si vous voulez. Mais là, nous sommes, disons, avant même le néolithique.
Vous pensez qu'ils ont des descendants nos habitants de Téviec, là, dans la population bretonne actuellement. Est-ce qu'avec... Non, mais c'est sérieusement, parce que c'est... Et est-ce que, je sais pas, si on faisait des analyses d'ADN, est-ce qu'on retrouverait ces ADN, c'est des Bretons?
Il faudrait continuer,
Tellement on peut voir.
Mais je ne suis pas préhistorien moi-même, donc là, disons, je laisse aux préhistoriens. Voilà.
On peut rêver, après tout, ça. Et alors, si vous évoquez quand même quelque chose aussi qui est intéressant dans ce chapitre, là, consacré à ce collier de Téviec, collier de coquillages, ce sont les offrandes. Les offrandes qu'il y a dans la tombe. Et qui laisse deviner une croyance en la promesse d'un au-delà.
Éventuellement, c'est-à-dire que si on met des offrandes auprès de, disons, de cadavres, ça suppose quand même la transmission de quelque chose qui dépasse la vie humaine.
Oui.
Mais je ne peux pas aller plus loin, évidemment.
C'est ça,
Est-ce que ces gens imaginaient un au-delà? Peut-être pas. Mais en tout cas, disons, le soin apporté à ce dépôt de...
Et puis,
de mort,
ils enterrent leur mort.
Voilà, ils enterrent leur mort. Et donc, voilà.
C'est donc qu'il y a quelque chose. Quand même.
Voilà, évidemment. C'est un signe.
Oui, qu'ils croient déjà en un autre.
Une croyance incontestable. D'autant que le deuxième objet, qui lui est massif, le tombeau-temple de Bardénès, que
très impressionnant. Et le site est magnifique.
Absolument.
Et j'imagine que vous connaissez ce site.
Voilà, et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs, s'ils ont la possibilité, d'y aller, parce qu'il est peu visité. C'est pour ça que j'ai voulu absolument l'intégrer. On est à quelques kilomètres de Morlaix, donc vous voyez, dans le Finistère Nord, et c'est un tombeau-temple, mais gigantesque, qui se trouve au bord de la mer, le grand cairn de Bardénès, et c'est le plus impressionnant témoignage du mégalithisme de toute la façade atlantique. Et d'ailleurs, je l'évoquais dans l'introduction, André Malraux l'a qualifié de Parthénon des Bretons. C'était évidemment un mot très très fort, mais c'est gigantesque. C'est-à-dire, c'est un monument colossal qui fait 72 mètres de long, 20 mètres de large, 8 mètres de haut, 14 000 tonnes de pierre. Et donc, c'est un des plus anciens construits par l'humanité, avant même les pyramides de Khéops et de Khéphren, ce qu'on oublie souvent. Ce monument, donc le tombeau de Bardénès, on peut le dater il y a plus de 6000 ans. 6000 ans.
Les pyramides dont vous parlez, c'est quoi, 3000, 4000?
Oui, c'est ça. C'est plus tard.
Ah oui,
absolument plus tard. Et alors là aussi, mystère, parce que que veut dire ce monument? D'abord, il veut dire une société, parce que vous imaginez, 14 000 tonnes de pierre assemblées, il a fallu des centaines, voire des milliers d'hommes pour assembler ce monument. On a retrouvé des tombes à l'intérieur.
Avec des corps et des squelettes?
Je crois qu'on n'a pas retrouvé de squelettes, mais en tout cas, c'est la trace vraiment de... disons, d'un lieu qui était un lieu de sépulture, et peut-être aussi un lieu de rapport avec une croyance. Alors, quelle croyance? Là,
c'est plus une tombe ou c'est plus un temple, d'après vous?
Peut-être les deux.
Les deux?
Peut-être les deux.
Alors sans doute qu'on y enterrait, dans ce cas, des personnes fameuses.
Voilà, et il est évident qu'on n'a pas enterré là le paysan lambda, mais peut-être des premiers princes. Et en plus, on est à l'époque néolithique, c'est-à-dire c'est l'époque justement où l'agriculture commence à se développer, donc la société est plus importante en taille, et donc ce monument dit tout cela aussi, si vous voulez, la progression économique, démographique, et c'est assez émouvant. Encore une fois, je suggère à tous les lecteurs d'y aller, parce qu'il y a un musée qui d'ailleurs a été mis en place à l'entrée de ce temple, et qui donne les multiples hypothèses de ce qu'il peut signifier. Alors, est-ce que ce serait une énorme barque rituelle destinée à conduire les défunts vers les rives de l'au-delà? Peut-être, mais c'est vrai que ce temple ressemble presque à une proue de navire, comme si, en quelque sorte, orienté vers la mer, il signifiait quelque chose, comme une sorte de départ vers, peut-être un au-delà. Alors, hypothèse, évidemment, puisqu'on n'a aucune source. Donc, peut-être que je dis quelque chose qui n'a pas vraiment de sens, mais tout de même.
Le site est particulier ou pas? Parce que pourquoi avoir bâtisse
ce tombeau-temple
à cet endroit. Le site est beau.
Oui, tout à fait impressionnant.
Et c'est préservé, c'est bien préservé quand
c'est,
on le voit.
C'est préservé, alors il a servi de carrière pendant longtemps, hein, et heureusement il a été préservé. Oui. Bah oui, on a voulu récupérer les pierres pour en faire, pour faire des bâtiments, pour construire des maisons. Maintenant, l'édifice est vraiment préservé. Et donc, je pense qu'il témoigne de l'inventivité technique aussi des hommes et des femmes de ce temps. Hein.
Ce qui frappe aussi face à ces monuments, c'est que c'est quand même, ce sont des monuments très imposants, c'est monumental, c'est le cas de le dire, mais l'espace intérieur est très réduit, en général.
Ben oui.
Il y a une espèce de chambre funéraire, avec un couloir, vous montrez la photo d'ailleurs, et puis on arrive à la chambre funéraire qui, j'imagine, n'est pas très grande, mais au-dessus c'est un amas.
C'est un amas de pierre.
Très important.
C'est ce qu'on appelle un cairn.
Un cairn. Comment t'expliquer ça? Quelle signification ça porte? On ne sait pas. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Comment savoir? Je vous laisse éventuellement des hypothèses, mais on ne peut que remarquer d'abord. Par l'importance de ce monument, qu'il devait être un lieu de rassemblement, hein. J'imagine.
Je vous propose, je connais une petite pause musicale, une deuxième pause musicale, et nous poursuivons. Si vous voulez bien, qu'avez-vous choisi?
Alors j'ai choisi Alan Stivell, parce que Alan Stivell, lui aussi, on a parlé des sœurs Guadec, fait partie justement de la renaissance de l'identité bretonne par la musique dans les années 70, et notamment Alan Stivell a mis en valeur la harpe celtique, voilà. On parle de celtisme, et donc je crois que c'est tout à fait important. Et Alan Stivell lui-même a été à l'Olympia, il a eu un succès immense en 1972, et ça a marqué justement la renaissance de la musique et de la culture bretonne d'une certaine façon. Ici, ça s'appelle « Les trois matelots », Trimar Tolod, un chant de marin du 19e siècle, avec justement la harpe, qui est un peu la marque de fabrique d'Alan Stivell.
Très bien.
Thank you.
auditeurs de Radio Courtoisie, après cette musique de harpe celtique, jouée par Alan Stivell, eh bien, nous reprenons cette émission en compagnie de Joël Cornette à l'occasion de la publication de son livre 50 objets racontent une histoire, raconte l'histoire de la Bretagne. Après nous avoir fait un résumé, un panorama général de l'histoire complexe de l'Armorique, puis de la Bretagne, eh bien, nous rentrons dans le livre avec des objets vraiment édifiants, impressionnants, passionnants même, qui laissent encore un certain nombre de questions non résolues, hein, qui est celui par exemple du colis de coquillage de Teviec, les plus anciens restes humains en Armorique dans une île au large de Saint-Pierre-du-Quiberon, c'est ça ? Une tombe, là encore, avec des squelettes, avec ses bijoux autour du cou. Et puis là, nous évoquons le Parthénon des Bretons, selon les termes d'André Malraux, ce tombeau-temple de Barnenèse, proche de Morlaix, au bord de la côte, dans un site, en effet, magnifique. Et donc, Joël Cornette, ce que vous nous expliquez, effectivement, c'est que Astérix ou Obélix, sur le plan historique, ça n'est pas très sérieux, puisque tout ce qui est menhir, dolmen, tumulus, cairn, etc.,
c'était bien avant,
c'est la préhistoire de l'Armorique et non de la Bretagne, en quelque sorte. Hein.
Obélix n'aurait pas pu être marchand de menhir.
Il n'aurait pas pu tailler les menhirs, puisque nous ne sommes pas du tout dans le même peuplement,
hein,
les Celtes, vous
et
précisez.
Pas du tout dans la même séquence. Les menhirs, c'est 4000 ans, 3000 ans avant Jésus-Christ.
Mais la résistance à César et à ses troupes.
César, c'est bien plus tard.
Les Celtes sont arrivés à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous expliquez-vous avec toute leur culture.
Et les menhirs continuent à garder leur mystère. Hein, et d'ailleurs, d'ailleurs, c'était étonnant, c'est que quand le livre était bouclé, on a appris que, comme vous savez sans doute, Carnac a été inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, avec d'ailleurs 550 sites répartis sur 27 communes. C'est-à-dire qu'on oublie souvent que l'Armorique est un des... Et même, je dirais, la région d'Europe la plus riche, justement, en témoignages mégalithiques. Alors on a évoqué Barnenèse, qui est le plus imposant, mais il faut évidemment parler des centaines de menhirs qui ponctue évidemment la péninsule armoricaine. J'en ai choisi.
C'est l'objet de votre troisième.
Voilà. C'est le troisième.
Troisième
objet.
Choix, le menhir de Saint-Cuzec. C'est d'ailleurs magnifique. Il y a une très longue histoire. On va le voir avec vous. On a une très longue histoire. Voilà. Et vous commencez par aborder effectivement cette énigme des menhirs ou des pierres dressées.
Voilà, pierres dressées, absolument des centaines, c'est le cas à Carnac. Mais justement, j'ai pas voulu choisir Carnac, parce que Carnac est très connu.
Oui.
J'ai choisi justement un menhir qui est peut-être plus riche de sens sur le plan de l'histoire, puisque je me sens évidemment, et j'espère être historien. Le menhir de Saint-Uzec, moins connu, il se trouve pas très loin de Plumeur-Baudou. C'est un menhir très haut, de 7 mètres de haut. Oui. De la période néolithique, donc un peu, disons, contemporain de Barnenèse. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce menhir a été retravaillé. Il a été christianisé. Et justement, c'est tout à fait étonnant. Il est surmonté d'une croix qui remonte sans doute au XVIIe siècle. Mais avant, il a été christianisé, justement par les grands Bretons qui arrivent de Grande-Bretagne et qui font la Bretagne. Et vous voyez ce menhir, et c'est pour ça que le gros plan est tout à fait intéressant. Il y a toute une série de symboles, une lune, un soleil, un personnage féminin en position de prière. Alors, est-ce que c'est la Vierge ou est-ce que c'est une déesse presque néolithique, déesse mère, si vous voulez. Enfin, là aussi, ça laisse, ouvert toutes les interprétations possibles. Mais, alors, et ce mais est important, ce menhir signifie que, après même le néolithique, il continue à être l'objet, de croyances, de cultes, pourquoi pas. Et voyez à l'Ocronan, la grande Troménie, qui est ponctuée de ces monuments de pierre, avec notamment une pierre où on dit « il suffit qu'on s'assoie sur cette pierre et on va devenir fécond », enfin, pour les femmes qui attendent un enfant. D'ailleurs, Anne de Bretagne, quand elle a fait son tour de Bretagne en 1505, s'est assise sur cette pierre néolithique, espérant avoir un enfant, et notamment un garçon. Donc vous voyez, on est ici dans une sorte de longue durée d'un imaginaire fécond dans tous les sens du terme, et ce menhir justement de Saint-Uzec eh bien, on dit long justement sur le pouvoir que ces pierres auraient sur la société.
Parce que lorsqu'ils ont été taillés et dressés,
oui,
donc au néolithique, pardon, vous pensez que c'était des objets de culte?
Alors là aussi, comment savoir, hein, on multiplie les hypothèses. Alors il y a les alignements de Karnak, évidemment, qui alors on a même pensé que c'était des soldats figés. Là, vous voyez, on n'est pas loin d'Astérix, des soldats romains figés par, je ne sais pas,
figés par la peur.
Voilà, voilà.
Bon, ils se sont cristallisés.
Alors, s'agit-il de tombes, peut-être? S'agit-il de marques, de frontières, de territoires, hein, on parlait de pays, enfin, c'est pas encore la Bretagne, mais ça pourrait signaler une frontière entre, je sais pas, des entités différentes. Est-ce que c'est aussi des signes liés, disons, au calendrier, hein, au solstice, par exemple? Bon, c'est un mystère. Et ce mystère est d'autant plus grand que, avec la remontée des eaux, si vous voulez, on a un peu perdu le fil de... beaucoup de ces menhirs sont maintenant engloutis, si vous voulez. Donc, Karnak, d'ailleurs, peut continuer sous la mer. Donc, alors, il y a...
On a pu le constater.
Oui.
Sous la mer, on a pu constater
qu'il
y a...
Encore, absolument. Oui. Évidemment, puisque à l'époque des menhirs, le niveau de la mer n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez... Il y a des chaînons manquants, si je puis dire. Mais encore une fois, aucune source écrite ne permet de savoir. Donc, on pourrait dire que je vous raconte des élucubrations. Je ne crois pas. Disons, des hypothèses.
Voilà. Ils sont nombreux, les menhirs, qui ont été, comme celui que vous nous présentez, le menhir de Saint-Uzec, à être christianisés, ou c'est simplement quelques-uns, comme ça, comme celui de Saint-Uzec, qui est magnifique.
Tous ne sont pas christianisés, mais beaucoup comportent une croix en leur sommet. Hein. Si vous allez en Bretagne, vous le remarquerez. Donc ça veut dire que, pour l'Église catholique, il fallait absolument christianiser ces signes de païens.
Enfin, qui confirmerait que, justement, ce soit religieux, ces menhirs, que ça puisse l'être.
Absolument.
Et donc, pour que l'Église ait éprouvé le besoin de christianiser des lieux païens...
à des croix à des vertus particulières. Au XIXe siècle, les premiers ethnologues racontent des femmes qui se frottent contre les menhirs, enfin, vous voyez, pour essayer d'obtenir soit fécondité, soit, je ne sais pas, un vœu qui serait exaucé. Donc, vous voyez, on est là dans un imaginaire multiple. Il y a aussi des fontaines en Bretagne importantes, hein, avec une sorte de culte qui leur est rendu. Donc, vous voyez, on a là toute une série de croyances et d'imaginaires. Voilà. Mais ça en dit long aussi sur la société, parce que ces menhirs ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ce n'est pas des extraterrestres. On a même pensé, dans les années 60, il y a eu des esprits particuliers qui ont dit c'est des marques d'extraterrestres. Non, évidemment. Mais il a fallu quand même des centaines d'hommes pour extraire d'énormes blocs, les tailler au silex, les transporter des kilomètres durant, sans doute sur des rondins de bois alignés les uns après les autres et préalablement graissés. Et le plus grand des menhirs, songez, c'est l'Okmariaker. Il est maintenant cassé en 4 morceaux, mais il pèse 350 tonnes.
Imaginez, comment faisait-il pour justement transporter cela?
À l'époque, il n'y a pas de machine. Hein.
Mais non.
Comment
faisait-il?
Donc là aussi, ça reste un mystère.
Mais
ça en dit long justement sur cette société. Il a fallu des milliers d'hommes, évidemment. Donc un commandement, donc une organisation, des ingénieurs entre guillemets, ingénieurs évidemment. Donc tout vraiment, vous voyez, un savoir extrêmement sophistiqué. Et c'est cela aussi que nous transmet tous ces témoignages de pierres, dolmens et menhirs, qui ne datent pas, encore une fois, ni d'Astérix, ni d'Obélix, ni des Romains, mais qui datent de la période néolithique, c'est-à-dire 3 000-4 000 avant Jésus-Christ.
Saint-Uzec, c'est le lieu-dit qui s'appelle Saint-Uzec, c'est pour ça qu'on appelle ça le menhir de Saint-Uzec.
Oui.
Saint-Uzec n'est pas représenté sur ce menhir de manière particulière. Mais alors, comment distingue-t-on l'origine, l'ancienneté de tout ce qui était gravé? Alors que le dessus du menhir, c'est donc une croix du XVIIe siècle, le menhir proprement dit,
le style, si vous voulez,
7e siècle,
le style un peu archaïsant des bas-reliefs là,
permet de croire que
voilà. Et par rapport, vous voyez, aux bijoux de l'époque carolingienne notamment, je crois qu'on a là des, et puis même, vous voyez, le personnage féminin, enfin c'est voilà,
ça permet effectivement de
voilà. Par contre, la croix qui est au-dessus du menhir, elle date du XVIIe siècle. Mmh. Et le XVIIe siècle, c'est la grande, on pourra y revenir, c'est la grande vague de re-christianisation de la Bretagne par les missions. J'évoquais dans l'introduction Julien Monnoir.
On abordera dans cette histoire, voilà. Bien sûr.
Et Julien Monnoir, un jésuite, a été un infatigable évangélisateur des campagnes bretonnes dans les années 1660-1680. Il y a eu 430 missions. Et les missions, c'est vraiment une opération de choc, hein, où toute une équipe de prêtres...
C'était quoi, justement, une mission ?
Une mission, c'est re-christianiser les campagnes bretonnes, dont on imaginait qu'elles étaient vraiment archaïques, païennes. Et donc, c'est toute une équipe de prêtres, 20 prêtres, 30 prêtres, qui vont dans un village et qui y restent pendant 15 jours. Et de 5h du matin jusqu'à 22h le soir, catéchisme, messe, vêpres, prière, et ça se termine par une grande procession et une croix qu'on plante, si je puis dire. Et justement, on peut penser que la croix qui surmonte le grand menhir de Saint-Usec a été mise là à l'occasion de
cette mission,
de cette re-christianisation des Bretons, pour bien montrer que le menhir, c'est païen. Mais on apporte, nous, la religion du vrai Dieu, auquel vous devez croire.
Ces missions, c'est propre à la Bretagne ?
Les missions, il y en a vraiment dans toute l'Europe, hein, mais la Bretagne, c'est particulièrement fort.
Fort. Et c'est propre au XVIIe siècle ?
Ah oui, tout à fait, c'est la contre-réforme.
C'est la contre-réforme.
Si vous voulez, je vais pas raconter toute l'histoire de l'Europe, mais comme vous savez, au XVIe siècle, il y a eu ce qu'on appelle la réforme, hein, c'est-à-dire Luther, Calvin, et ça a provoqué les guerres de religion en France entre 1562 et 1598. Et donc, il y a eu une reprise en main par l'Église catholique dans le cadre du Concile de Trente qui s'est réuni à Trente entre 1545 et 1563. Et dans ce Concile de Trente, on a décidé, disons, de reprendre en main la société, de la recatholiciser, et des ordres particuliers ont été finalement presque, si je puis dire, inventés pour ça, et je pense aux jésuites. Hein. La fonction des jésuites, c'était justement une recatholisation forte de la Bretagne, et les jésuites, très disciplinés, hein, dépendant directement du pape, eh bien, ont beaucoup agi justement au niveau des campagnes, et c'est là qu'on trouve Julien Monnoir, qui a vraiment contribué à cette christianisation forcée, à marche forcée de la Bretagne dans les années 1660-1680. Je crois qu'il est mort en 1683, à l'époque de Louis XIV. Donc.
Dans un mode commando. Bien, Joël Cornette, c'est sur ce superbe menhir christianisé par deux fois, une première fois au 7e siècle par les grands bretons, et une deuxième fois au 17e siècle dans le cadre de ces fameuses missions commando, avec des commandos de jésuites, que nous devons malheureusement nous séparés, nous n'en sommes qu'au troisième objet. Il y en a 50 à voir avec vous, Joël Cornet, et vous allez revenir pour notre plus grand plaisir. Je rappelle votre livre, 50 objets raconte une histoire de la Bretagne, que vous publiez aux éditions Erol. Merci beaucoup à vous, Joël Cornet. Bonsoir, chers auditeurs, à vous tous.
D'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt. Émission préenregistrée le 18 décembre 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie dimanche 9 août 2026 de 18h à 19h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.